Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouais, on peut dire bonsoir maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, moment conclusif du Festival Extraction, première édition. Dans le cadre de ces rencontres qu'on a appelées collusion entre un ou une auteur et quelqu'un d'une discipline différente, ou au moins partiellement d'une discipline différente, puisque j'ai appris, et je ne le savais pas, que Jacques Testard a aussi écrit des livres de littérature, et on va avoir l'occasion du coup d'en parler, puisque Emmanuel Pirère, donc, a souhaité s'entretenir avec Jacques Testard. Emmanuel Pirère est au départ poète, aussi au départ, parce que tout ça c'est un chemin, elle est donc auteure depuis une bonne vingtaine d'années. D'abord de poète chez Maurice Nadeau, et puis d'objets un peu plus longs, qu'on a appelés romans, qui sont des textes plus longs que des poèmes, mais qui ne sont pas des essais, qui sont des romans avec pourtant des idées, tout le temps, des réflexions sur la société telle qu'elle est maintenant, et un mélange des genres permanent, une hybridation permanente entre les disciplines, et puis aussi entre les registres de métaphores, et puis entre les genres, pour le coup, parce qu'on passe de l'humour à de la légèreté, d'une apparente désinvolture à une profondeur. Donc Emmanuel Pirère se faufile entre les genres et les disciplines. Jacques Testard, vous êtes biologiste, vous êtes retraité, m'avez-vous dit, mais ex donc directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes auteur de nombreux livres, donc d'essais autour de la biologie et ces dernières années des conventions citoyennes, dont on aura l'occasion de parler aussi. Et puis vous êtes connu pour être l'auteur des premières mères porteuses chez les bovins en 72, puis avec votre équipe des premiers succès en France de fécondation in vitro humaine, puis de congélation de l'embryon humain, puis d'être l'auteur avec votre équipe donc de la première FIV avec injonction de spermatozoïdes en 1994. Donc un scientifique, donc du sérieux, un praticien. Et donc la collusion, elle est là. On se dit, qu'ont-ils à se dire? Eh bien, nous allons voir. Mais tout part de quelque chose de très singulier, qui est que dans Chimère... du coup, on a perdu la page. On va la retrouver. Chimère, dernier roman en date d'Emmanuel Pirère, paru à la rentrée littéraire de septembre, il est plus que question de Jacques Testard, puisque Jacques Testard, ici présent, est, en tant que Jacques Testard, personnage de cette fiction. Pour vous dire que, comme la fiction part d'un point de vue assez réaliste, au sens où Emmanuel Pirère nous parle depuis son bureau d'Emmanuel Pirère et de son travail d'auteur, j'ai moi-même cru longtemps que Emmanuel Pirère avait rencontré Jacques Testard, ce qui n'a pas été le cas avant aujourd'hui. Hein, donc cette collusion, elle est en direct. Donc on va voir ensemble, comme avec on joue avec des éprouvettes, on va voir ce qui se passe, ce qui se produit. Et je vous proposerais bien de commencer par l'origine de cette collusion, qui est que Jacques Testard est donc dans le livre et raconté par Emmanuel Pirère. Et j'ai proposé à Emmanuel de commencer par là, de vous lire ce passage de sa rencontre réelle, effective, avec Jacques Testard. Merci Emmanuel.
Jacques Testard est un personnage connu en France. Ses premiers coups d'éclat remontent, d'après ce que j'ai lu, au début des années 80. Les biologistes britanniques avaient déjà à l'époque infligé un traumatisme aux autres pays en annonçant, un jour de 77, qu'ils attendaient leur premier bébé issu de fécondation in vitro. Les gynécologues du monde entier s'étaient alors rendus compte qu'en pleine furie sensuelle des années 70, ils étaient plutôt ignares sur la reproduction humaine. Les habitudes avaient changé, devenant aussi hardes que subtiles. On essayait des positions incroyables, du Kama Sutra le plus acrobatique au massage de pieds. Les filles étaient épanouies, nues, débridées. Les gens étaient devenus de super pros du sexe. Mais force était de constater que les gynécologues internationaux n'avaient pas suivi. Au mieux, ils savaient guérir des bobos féminins, freiner des descentes d'organes, cautériser des machins qui saignent. Mais les mécanismes de la reproduction leur étaient restés inconnus. Et voilà que les Anglais, qui n'avaient rien laissé deviner de leurs activités et avaient les pupilles aussi dilatées que tout le monde, brandissaient soudain leur bébé, leur éprouvette à bébé sous le nez des autres pays. Heureusement, la France prévoyante avait eu la bonne idée de recruter Jacques Testard, qui expérimentait déjà à l'hôpital de Clamart à partir de morceaux d'ovaires tombés du bloc opératoire. Les Anglais n'avaient pas bluffé et firent naître leur Louise Brown en 78. Jacques Testard suivit de près en offrant une petite Amandine à la France en 82. Je me suis rendue chez Jacques avec une boîte de macarons. Parmi la jungle de yucca et autres plantes dont j'ignorais complètement le nom autant que l'existence et qui envahissait son salon, j'ai bu le thé avec cette sommité. Jacques Testard était terriblement plaisant, mais je n'ai pu tirer de lui aucun scoop pour mon article. Il n'avait aucune intention de parler d'OGM, il était passé à autre chose et préférait s'étendre sur son nouveau cheval de bataille, la science citoyenne. Ah oui, ai-je dit gaiement, la science citoyenne. Même si dès qu'on ajoute l'adjectif citoyen derrière un mot, je ne sais pas pourquoi, je suis prise d'une irrépressible envie de dormir. Pique-nique citoyen et les yeux me picotent, j'emprunte citoyen tandis qu'un bâillement me décroche la mâchoire. Mais Jacques Testard m'a servi une tasse de thé vert japonais au léger goût d'algues, évoquant les océans, le plancton, la respiration. Nous devons enfin intégrer, m'a-t-il dit, que nous, collectivement, sommes les commanditaires de nos scientifiques. Puisque c'est nous qui finançons les chercheurs avec nos impôts, puisque leurs travaux transforment notre environnement, puisqu'enfin nous payons les pots cassés, quand d'aventure ils ratent, quand leurs inventions nous explosent à la figure, nous rendent aveugles et stériles, nous font naître avec des bouts qui manquent ou sautiller parmi les flaques contaminées, c'est à nous d'indiquer quels sujets les scientifiques doivent étudier et lesquels leur sont interdits. C'était tellement limpide que j'en ai frissonné. Si Jacques Testard avait voulu appliquer le même contrôle populaire au sujet artistique, j'aurais peut-être tiqué, mais pour les sciences, ça m'a paru transcendant. Ce sage indien m'éclairait le chemin en lévitation dans sa forêt de yucca. J'arrête là. Ensuite, on s'en va dans son jardin. Et on discute de conférences, de conventions de citoyens.
Voilà. Et donc, du coup, je vais vous poser à chacun la question suite à ce texte-là. D'abord, en commençant par Jacques Testard, parce que Emmanuel vous a envoyé le livre, et puis donc vous l'avez ouvert, et puis vous l'avez lu, et puis vous êtes dans un livre. Donc, un, qu'est-ce que ça vous fait quand vous le lisez? Et puis, est-ce que le portrait est bon? Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, après cette réponse à cette question-là, peut-être qu'Emmanuel pourra nous raconter ce qu'elle a souhaité faire en vous mettant là-dedans, c'est-à-dire dans le rapport à cette fiction. Pourquoi ça comptait pour elle, voilà, pour vous, dans votre fabrication à vous, dans votre bricolage à vous. Donc Jacques Testard, vous recevez dans une enveloppe à bulles, j'imagine, c'est comme ça qu'ils arrivent, ce livre, avec un mot d'Emmanuel, et vous le lisez, et c'est assez tôt dans le livre. Donc assez tôt, il y a ce truc où c'est écrit Jacques Testard est, etc., etc. Et j'ai pris le thé avec Jacques. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez lu ça? Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a convenu, agacé, énervé?
Non, ça m'a ni agacé ni énervé. J'ai été d'abord surpris, mais j'ai été plutôt satisfait que le personnage qui était dans le roman... C'était pas le père du bébé éprouvette, la science, la médecine triomphante, mais c'était le critique de science, ce que je suis. Hein. Sur mon site, il est indiqué mon nom, critique de science. Je précise pour les gens, parce que souvent, surtout les chercheurs, mais même les autres, disent, mais critiquer la science, c'est dangereux, c'est l'obscurantisme. Et tout. Non, il y a des critiques d'art, il y a des critiques de cinéma. Pourquoi il n'y aurait pas des critiques de science? C'est une activité humaine qui doit être jugée par la société. Donc là, ça m'a amené cette attitude de critique de science à proposer des procédures pour que les gens puissent s'emparer de l'objet technoscience, parce que quand on dit science, en général, on mélange, c'est plutôt les inventions, c'est plutôt les choses... La science, c'est la découverte. Et les choses dont on parle, ce n'est pas des découvertes. Si vous regardez à la télé, dans les journaux, on vous parle de science tous les jours, mais ce n'est pas de la science qu'on vous parle, c'est de la technique. Donc la technique, elle peut être discutée, la science, non. La science, c'est comme une activité artistique. Ça fait partie, c'est un besoin de l'humain de chercher à connaître, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on donne de l'argent au laboratoire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille exclusivement sur contrat. Et le contrat, ce n'est pas de comprendre quelque chose, c'est de mettre au point une molécule à vendre, un brevet, bon, c'est toujours économique. Autrement dit, c'est une activité comme les autres aujourd'hui. Et on appelle ça la technoscience. Et ça, ça doit être donc analysé par les gens. Donc pour revenir au bouquin, moi j'étais très content qu'on me mette justement dans la peau de ce personnage critique de science, plutôt que héros savant, pour lequel j'en ai assez marre quoi, de ça. Voilà, donc j'ai été très satisfait, et d'autant que les conventions de citoyens que je défends sont ensuite mis en scène dans le bouquin, à mon avis, de façon critiquable. Mais je pense que c'était aussi le point de vue de l'auteur. C'est pas du tout comme ça qu'il faudrait faire. Mais il n'empêche que le sujet arrive dans un roman, c'est bien.
Alors Emmanuel, donc tout ça, merci. Jacques Testard et les conventions citoyennes et le trajet de Jacques Testard, c'est aussi pour appuyer la question, effectivement une convergence de plusieurs centres d'intérêt pour vous. Dire que dans une fiction de 2006 qui s'appelait « Comment faire disparaître la Terre », il était beaucoup question de Dolly, la brebis clonée. Donc la génétique, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous traficote depuis longtemps. Mais là, quelle est l'intention, quel est le rôle de Jacques Testard dans cette fiction-là, dans la fiction elle-même, dans le livre lui-même, et puis dans votre petit laboratoire de fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, il sert, je pense, aussi, en tant que personnage, à ce que les choses s'élaborent.
Moi, je dois dire que j'étais un petit peu dans mes petits souliers en venant aujourd'hui, parce qu'on ne s'était donc jamais rencontrés. Donc, c'était le moment que j'affronte la rencontre avec la personne que j'ai un peu instrumentalisée en l'insérant dans ma fiction. Je n'étais pas si fière que ça. Enfin, tant que ça reste, tant qu'on est dans sa chambre et qu'on fait ça, qu'on fait ses petites expériences personnelles, tout va bien. Mais quand il faut s'affronter au réel, dans les fractions, c'était le moment de le faire ici. C'était un peu plus coton. Vous avez tout à fait raison de dire que, enfin, c'était pas tout à fait le cas dans le texte, dans l'extrait que j'ai lu, mais en effet, de dire que c'est votre personnage de critique de science qui m'a intéressée, parce qu'en fait, si j'ai eu l'idée de me renseigner sur vos activités, c'est parce que je suis tombée sur une émission de France Culture, je pense en 2013 ou 2012. Ça devait être à voix nue, quelque chose comme ça, puis une série d'émissions. Et dans la cinquième émission, il était question des conventions ou conférences de citoyens. J'en avais jamais entendu parler, ça m'a paru une idée vraiment géniale. L'idée étant qu'on tire au sort des gens dans la population et on leur demande de se prononcer après formation, contradictoire, etc., selon un protocole assez précis, on leur demande de se prononcer sur des sujets compliqués, des sujets touchant souvent la recherche scientifique et technique. Et j'avais jamais pensé à ça. Enfin, on pense toujours que les scientifiques, ils recherchent sur ce qu'il faut, sur quoi ils cherchent, enfin, qu'ils ont raison d'aller dans la direction, qu'il y a une sorte de marche automatique de la science, des avancées scientifiques. Mais en écrivant ce livre sur les chimères, je me rends compte, par exemple, que c'était pareil avec c'est aussi le cas avec Dolly. Quand je parle de chimères, personne ne me dit génial, c'est vraiment bien les chimères, quelle belle avancée. Tout le monde me dit quelle horreur en fait. Donc il y a vraiment de quoi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on cherche dans une direction qui nous rappelle l'horreur, quoi. Qu'est-ce qui peut motiver ça? Et en effet, quand on pose la question à des quidam tirés au sort, si on leur posait la question, ils ne seraient certainement pas tout à fait ravis de poursuivre dans cette voie-là. En tout cas, ça vaudrait la peine de poser cette question. Et quand je me suis renseignée sur justement les manières de consulter les gens sur les avancées techniques scientifiques, on m'a plutôt expliqué qu'en général, ça se passe de la manière suivante. Des spécialistes viennent expliquer aux gens ce sur quoi ils vont réfléchir, essayer de les convaincre que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de super. Et il y a, en fait, donc après, il peut y avoir un débat, mais ça, c'est vraiment dans l'autre sens. Je pense qu'il faut penser les choses vraiment à l'envers, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment cette chose-là qui m'a intéressée en premier. Et l'autre thème qui était l'autre premier moteur du livre, c'était c'était le fait que j'ai écrit un article pour Libération sur les OGM. Je l'ai écrit parce que je n'y connaissais rien, que je me suis dit que ce n'était pas normal que je ne connaisse rien sur la manière dont ils sont autorisés, par exemple, ou pas, par qui, est-ce qu'on en mange, etc. Et c'est en cherchant sur les OGM que je suis tombée sur des articles qui expliquaient qu'on pouvait fabriquer des chimères désormais au Royaume-Uni, enfin, en tout cas des embryons chimériques, voilà, ce qui m'avait un peu étonnée, éberluée. Et donc, en effet, le personnage de Jacques Testard fait exactement condense en une seule personne, si je puis dire, les deux problématiques, quoi, le fait d'avoir une recherche scientifique et technique assez poussée, et puis d'un autre côté, le fait de réfléchir à la manière dont les citoyens peuvent s'emparer de la science. Donc, c'est un petit module de fiction, pardon de vous appeler comme ça, une sorte de module de fiction très, très pratique pour un livre.
Oui, ce qu'il faut dire sur les OGM. Sur les chimères plutôt, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Les OGM, c'est quand on modifie l'ADN d'un œuf, donc d'un futur individu, on va changer quelques petites choses dedans, alors que les chimères dont il est question dans le livre, c'est un mélange de cellules non modifiées, elles peuvent l'être, d'ailleurs elles le sont, vous dites à un moment qu'elles ont été bricolées, c'est possible, mais le but c'est surtout de mélanger deux espèces différentes. Donc c'est les chimères comme il y a dans la mythologie un peu, hein. Les taureaux à tête d'homme ou au contraire à corps d'homme, toutes sortes de choses. Bon, jusque-là, tout ça, c'était du fantasme. On ne faisait pas ça dans les labos. La loi de bioéthique en préparation, et qui va être votée bientôt, va autoriser les recherches sur les chimères humaines. C'est-à-dire qu'on va introduire des cellules humaines dans des embryons d'animal. Le but, c'est toujours la connaissance. C'est toujours comme ça qu'on présente les trucs, hein. Je vous rappelle que les Japonais chassent la baleine allègrement, ils en tuent des milliers tous les ans, et l'argument, c'est pour la recherche. En fait, c'est pour les bouffer, hein. Mais c'est ça. Donc là, l'argument pour faire des chimères, c'est la recherche, c'est la science, c'est la connaissance. Tout le monde s'en fout complètement, il n'y a pas de connaissance à avoir là-dessus. C'est de produire des cellules souches pour des laboratoires pharmaceutiques, donc côté commercial. Et puis éventuellement de déboucher sur des... Alors pour le moment, il est interdit de transplanter ces chimères, qui n'existent pas encore, mais qui on encourage les recherches. Donc c'est un pas extraordinaire dans le développement technique. Et c'est une insulte à l'éthique, complètement, de mon point de vue.
Question de totalement candide à cet endroit-là. Techniquement, on les appelle vraiment des chimères? Parce que d'un point de vue du rapport au mot, qui est un peu notre centre d'intérêt depuis la littérature, le fait que ce soit appelé des chimères et que ce soit accepté par la communauté scientifique paraît presque incongru ou saugrenu. Parce que ça semble dire que c'est du fantasme. Alors qu'en général, on veut nous faire passer des choses tangibles ou rationnelles.
Oui, absolument. Mais dans les mêmes textes, donc de la loi de bioéthique en préparation, il y a aussi les OGM. Donc je disais, les OGM, c'est des petites modifications de la molécule ADN, alors que les chimères, c'est l'assemblage de cellules qui contiennent leur ADN d'origine, de l'espèce d'origine, mais des cellules venant d'animaux ou d'humains différents. Donc, en fait, c'est chaque fois des manipulations quand même du vivant et la production d'individus qui n'ont jamais existé dans la nature, qui sont toujours des surprises. Et ça existait, pour dire que c'est possible. Il y a un Danois qui a fait ça dans les années 60, 64, 65. Il a fait ça entre des brebis et des chèvres. Il a appelé ça des mouchèvres, moutons-chèvres. Et il a eu des animaux qui ont vécu. Je ne sais pas s'ils se sont reproduits après, mais il a fabriqué en mélangeant au niveau embryonnaire, en fusionnant des embryons. Donc il y avait des cellules de chèvre, des cellules de mouton. Il y a aussi une académicienne française qui s'appelle Nicole Ledouarin qui a fait ça à titre de recherche cette fois, entre la caille et le poulet, parce que ça lui fait des marqueurs, les cellules ne sont pas les mêmes, pour suivre le développement embryonnaire. Elle a fait des travaux remarquables là-dessus. Mais là, il n'est pas du tout question de ça. On ne voit pas bien pourquoi on ferait des chimères avec de l'humain. Mais en tout cas, ça va être autorisé. C'est complètement fou. C'est d'autant plus fou qu'il y a eu, soi-disant, un débat démocratique sur la loi de bioéthique. En fait, ce débat a été complètement accaparé par un sujet, à mon avis, mineur, que celui de la PMA pour toutes. Et on n'a pas du tout parlé de tout ce qui se prépare actuellement, c'est-à-dire ça, par exemple, les chimères, les OGM humains, mais bien plus grave que ça, le tri des embryons humains de façon massive, que moi, enfin, c'est, pour moi, c'est le plus gros problème de bioéthique et personne n'en parle. Ni les journalistes, ni le comité d'éthique, ni l'Académie des sciences, on n'en parle pas. Les choses avancent tout doucement. Et quand j'explique ça dans des conférences que je fais de temps en temps, les gens sont ébahis de ce qu'on pourrait faire et de ce qui est autorisé à faire. Donc, la bioéthique, c'est vraiment... Bon, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait pour empêcher ce qu'on appelle le progrès scientifique, c'est-à-dire le business de la technique. C'est quelque chose qui est fait seulement pour modérer les avancées de la technologie quand elles sont trop violentes pour l'état de l'humanité, en préparant l'humanité à accepter quelque chose de plus. Par exemple, certainement, la précédente révision des lois de bioéthique, on n'aurait certainement pas osé mettre la PMA pour toutes. Bon, et dans la prochaine loi de bioéthique, on pourra mettre la gestation pour autrui. Et chaque fois, il y a des avancées. Alors, on appelle ça la bioéthique. Mais ce n'est pas du tout une réflexion morale ou sur des principes. C'est simplement de mesurer l'état de la société. Donc, il y a des enquêtes d'opinion, il y a tout. Il y a des réunions, des sondages. Et puis, en fonction de l'évolution de la société, qui est évidemment apportée à la fois par les autorités scientifiques, bioéthiques et par la presse, eh ben, on voit que les gens évoluent et qu'ils vont pouvoir accepter davantage. C'est-à-dire, la bioéthique, elle va toujours dans le sens de libéraliser, d'ouvrir à quelque chose de nouveau. Jamais une nouvelle loi bioéthique sera régressive, c'est-à-dire interdira quelque chose qui était toléré auparavant. C'est toujours ouvrir. Donc on voit bien dans quel sens ça va, il n'y a pas de limite. Et c'est pourquoi la bioéthique, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on en imagine. C'est un instrument au service de la technoscience pour faire passer tout.
J'ai remarqué ce que vous dites. Je mets toujours longtemps à écrire parce que je prends du matériau comme ça, pas très facile à utiliser, que j'essaie de mettre en fiction. C'est un processus assez long. Donc entre 2013 et 2018, j'ai vu changer le ton des articles en fait qui parlaient de chimères, par exemple. Au tout début, on mettait toujours l'accent sur le fait que c'était très contrôlé, que les embryons sont éliminés au bout de 14 jours, qu'il n'était pas question de faire des monstres. Et puis à la fin, c'était tout à fait passé dans les mœurs. Par exemple, il s'agit de faire pousser des organes humains dans des porcs. Enfin, et donc l'idée, c'est plutôt on manque de greffes et donc ça va être une solution bien pratique. Enfin, on avait vraiment changé de ton. On a vraiment changé de ton dans ces années-là. Et aussi, vous m'avez fait penser à autre chose. J'ai regardé donc beaucoup de vidéos de Jacques Testard avant de le rencontrer. Donc beaucoup de vos pensées me sont familières. Et à propos de trier des embryons, vous avez dans une des vidéos que j'ai regardées, je ne sais plus où est-ce que ça se passait, dans une conférence j'imagine, ou en réponse à une interview, vous parliez du fait que dans le futur, si on passe à ce tri des embryons, vous imaginez une situation où des gens qui feraient comme ça leurs enfants de manière artisanale chez eux seraient vraiment considérés comme des sauvages auxquels leurs enfants pourraient pratiquement faire des procès parce que c'est quand même pas sérieux quoi, et pas très sympa pour un enfant de ne pas lui donner toutes ses chances d'avoir les plus beaux yeux, la plus belle intelligence et le plus beau corps, etc. Cette idée-là, je les garde, cette histoire de faire ses enfants comme des sauvages dans sa chambre,
mais c'est surtout, quelque chose qui m'est resté. Surtout qu'il y a, si on revient à la loi de bioéthique, il y a eu 2 ans un article scientifique fait par des Japonais chez la souris, parce que la souris, c'est le modèle de tout le monde, qui arrive à fabriquer des gamètes, c'est-à-dire des ovules ou des spermatozoïdes, avec des cellules de la peau des souris. Donc ils fabriquent des ovules ou des spermatozoïdes, ils les mettent en fécondation, ils obtiennent des embryons qu'ils transplantent, ils ont obtenu des petits qui ont été capables eux-mêmes de se reproduire. Autrement dit, avec des cellules banales, comme les cellules de la peau, on peut fabriquer des nouvelles personnes. C'est une découverte scientifiquement extraordinaire, mais éthiquement, c'est dramatique. Parce que ça veut dire que si on fait ça chez l'humain, et je pense qu'il n'y a aucune... Techniquement, il n'y a pas d'impossibilité. Tout ce qu'on fait chez l'animal, on sait le faire chez l'humain. Donc, il y a simplement qu'il faut mettre au point les conditions spécifiques et puis que ça marche un peu mieux qu'actuellement chez la souris où ça ne marche pas fort. Mais quand ça marchera, dans 5, dans 10 ans, mais à ce moment-là, on pourra non plus souffrir la fécondation in vitro, qui, surtout pour les femmes, est une épreuve très pénible, avec des prises de sang, des échographies, des machins, des obligations, des ponctions ovariennes. Tout ça, ce sera fini. on aura une petite biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de cellules, dans la fesse ou ailleurs, avec des centaines ou des milliers de cellules, qu'on transformera en gamètes. On produira des centaines d'embryons, et non pas une dizaine comme aujourd'hui. Et sur ces embryons, on appliquera des algorithmes de tri génétique pour retenir le meilleur de tous ces embryons, puisqu'ils sont tous différents entre eux, hein, c'est des faux jumeaux. Et ça, c'est une évidence que ça va arriver. Moi, quand j'ai été appelé, parce que chaque fois qu'il y a une révision des lois de bioéthique, les députés m'appellent. Donc, pas que moi, hein, mais je fais partie des experts auditionnés. Chaque fois, je leur sers le même discours, ça fait 30 ans. Je leur sers le même discours. Le grand problème, c'est le tri des embryons. J'ai pas le temps de développer, mais c'est pas la modification embryonnaire, le CRISPR-Cas9, tous ces trucs qu'on voit dans les journaux, tout ça, ça marche pas. Donc, c'est le tri, c'est-à-dire on modifie rien. Mais on va modifier l'humanité en modifiant la descendance des gens qui tous vont choisir le même genre de bébé. D'un point de vue de la santé, c'est évident, on ne va pas choisir un bébé malade. Donc je disais, si on peut, avec une simple biopsie, produire des centaines d'embryons pour un couple, donc sans qu'il ait à souffrir la FIV, ça veut dire que ça lève beaucoup de barrages. Mais avec ces centaines d'embryons, on va avoir une acuité eugénique, c'est-à-dire on va pouvoir trier les embryons comme on ne l'a jamais fait, même pour les animaux. Même pour passer de l'auroch à la vache, on n'avait pas des outils comme ça. Il a fallu des millénaires. Là, on peut, en deux générations, changer l'humanité avec ce truc-là. Donc, quand j'ai raconté ça aux députés, ils m'ont dit « Ah ben oui, c'est inquiétant ». Et puis, ce qu'ils ont mis dans la loi, il faut encourager les recherches pour fabriquer des gamètes à partir de cellules de la peau. C'est extraordinaire. Les sénateurs ont repris la même chose, donc ça va être dans la loi. Autrement dit, au lieu de crier, comme par exemple il y a eu au moment de la brebis d'Oli, du clonage, donc c'était en 96 ou 14, je ne sais plus. Il y a eu à ce moment-là levée de bouclier. Je me rappelle que Chirac a téléphoné, c'était Bush, je crois, aux États-Unis. Chirac lui a téléphoné pour dire qu'il faut prendre une décision internationale pour interdire les recherches sur le clonage humain. Donc il y avait quand même un engagement qui était là. Il y avait encore un peu de morale dans l'éthique. Mais aujourd'hui, il se passe l'inverse. Il faut encourager les recherches. Alors on dira, oui, mais il n'est pas question de transplanter les embryons. Mais alors pourquoi on fait des recherches? On se moque du monde. Donc il faut aller. Et alors, l'argument est toujours le même. De toute façon, les autres le font, les Anglais, les Belges, les Espagnols, les Américains, les Chinois, les Japonais. Donc si on ne le fait pas, on va être en retard. C'est toujours le même truc, on va être en retard. Moi j'ai dit aux députés, si on est en retard pour aller dans le mur, alors on se retrouve en avance. Mais c'est pour vous montrer qu'ils ne manquent pas d'informations, nos élus. Simplement, ils sont complètement obnubilés par la science, comme la plupart des gens, et ils croient beaucoup plus les scientifiques qui ont un discours contraire au mien. C'est vrai que je suis très minoritaire, j'ai un discours critique, mais qui disent « c'est formidable, on fera des bébés qui ne seront pas malades » et tout. Tout ça, c'est des conneries, on l'a vu avec les OGM. Les OGM, ça n'a absolument pas amélioré les plantes. Ça a permis de dépenser des produits chimiques, d'en mettre partout et d'avoir des effets sur la santé publique. Mais ça n'a aucun effet bénéfique. Mais c'est la même chose. Et le discours est toujours tenu pour les OGM, pour des chimères, pour tout ce qu'on veut, le tri des embryons. Donc il n'y a rien qui semble arrêter la machine, puisque même les médias ne sont pas intéressés par un discours comme le mien, qui est un discours négatif. Donc il faut du positif. On ne m'invite plus à la télé, sauf à 2h du matin, quand les gens dorment. Parce que ce n'est pas quelque chose de porteur. Il faut un discours positif. Il faut quelqu'un qui... Ben, c'est pareil pour le climat. Hein. Ils ont invité quelque temps les catastrophistes. Maintenant, c'est fini. On revient avec des gens sérieux, le GIEC, tout ça. Il y a des solutions. Il faut isoler les maisons. Il faut... Voilà. On nous amuse avec ça. C'est évident que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on dit.
Et d'ailleurs, ce qui a fonctionné sur le clonage est tant mieux. Je joue peut-être aussi là-dessus sur une simple question de positif-négatif ou, si j'ose dire, d'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a le fantôme de la monstruosité derrière le clonage. Et je pense que notre imaginaire aussi, avec les films fantastiques, etc., fait que ça peut réagir, ça a pu réagir plus. Clonage, on peut vite se dire « Ouh là là !» Tandis que là, un discours, effectivement, voilà, comme vous le dites, strictement du positif, évacuation du négatif, mais qui est le discours de base du scientisme positiviste depuis toujours. Je pense que c'est très intéressant à cet endroit-là. Moi, je voudrais vous poser la question du langage, pour en revenir à notre... parce que Emmanuel disait, depuis votre poste d'observation, qu'est la littérature et donc la langue, le ton a changé. Et l'air de rien, le ton a changé signifie, par le langage, faire admettre qu'une réalité peut changer en douceur. Donc, le pouvoir du langage sur le réel. On est au cœur de notre sujet. Donc, j'aimerais vous faire réagir là-dessus, revenir là-dessus, sur ce rapport entre les mots et le réel, pour le coup, parce que, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez un exemple frappant avec le mot eugénisme. Donc, Emmanuel, d'abord, creusez encore un peu ça. Comment, depuis, peut-être, voilà, la poésie et le travail sur le langage est, à cet endroit-là, un poste d'observation politique, un poste d'acuité. Ça vous intéresse depuis très longtemps, enfin, depuis la poésie, voire une certaine poésie d'ailleurs de toutes les années 2000 qui a beaucoup travaillé à revers du langage positif, publicitaire et de la communication. Ça, c'est ma question pour Emmanuel. Puis après, j'ai enchaîné sur cette question du mot eugénisme qui, remis en question, remettrait bien d'autres choses en question dans le réel.
Oui, pour revenir au fond de ce qui m'intéresse en littérature, c'est vrai, et quitter un petit peu la science pour passer à la communication, ce qui n'est pas plus réjouissant. C'est vrai que j'ai un rapport assez fort au langage, c'est-à-dire que je n'ai pas un accès direct au réel, j'ai un accès enfin, comme tout le monde, mais j'y suis très sensible, j'ai un accès au réel vraiment par les discours qui sont tenus au sujet du réel. Et donc, je souffre beaucoup de la maltraitance qu'on fait subir aux mots, en fait, dans le langage médiatique, politique, de la communication, de la publicité, etc. Par exemple, un exemple qui me vient souvent en tête, c'est celui du mot développement. Dans les années 80, pourtant, il y avait déjà le sous-développement, mais le mot développement était encore un mot assez polysémique. J'avais suivi un atelier d'écriture dans les années 80, fin des années 80, et le sujet, c'était le mot développement, et il y avait eu plein de textes différents des participants de l'atelier, assez divers, quoi. Des plantes qui se développent, deux jumeaux qui se développent pas pareil, un développement d'entreprise, mais il n'y en avait qu'un seul. Bon. Et puis, j'ai donné ce même sujet, le mot développement, à des étudiants dans les années 90, fin des années 90, je pense, ou milieu des années 90. Et là, il y avait eu le développement durable qui était passé par là. Et en fait, les étudiantes m'ont dit, mais pourquoi nous donner un sujet ? Enfin, elles étaient presque insultées que je donne ce sujet-là. Comme si c'était un mot de communication. Mon Dieu, on ne peut pas écrire sur ce sujet-là. Il n'y a rien à dire, c'est de la com, le mot développement. Alors c'est horrible, le mot développement, c'est un beau mot quand même. Enfin, les choses qui se développent, c'est plutôt... Et donc, je suis ces manières dont les mots sont en quelque sorte volés par la communication, comme le mot confiance, école de la confiance, par exemple. On est sûr que ça veut dire... Une banque vous dit la confiance près de chez vous, vous êtes sûr qu'il faut vous méfier, absolument. Donc, ce retournement... qu'il faut qu'on pratique dans nos manières de comprendre les mots, comme ce programme-là qui consiste à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui s'appelle Bienvenue en France. c'est tellement ironique. Enfin, il faut tellement qu'on pense les choses à l'envers pour recomprendre ce que c'est que le réel. Que pour moi, c'est quelque chose de terrible en fait dans le rapport au langage qui se passe en ce moment. Ça me fait vraiment souffrir. Donc je travaille sans arrêt en fait sur ces discours. Oui.
À propos de développement, je voudrais signaler que j'ai été, dans ma jeunesse, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, j'étais président de la Commission française du développement durable. C'est les écolos qui m'avaient collé là-dedans. Je ne savais pas bien ce que c'était. J'ai démissionné au bout de 3 ans. La commission a été dissoute en disant qu'il n'y a pas de développement durable possible. J'avais travaillé entre-temps sur le sujet. Le développement ne peut pas être durable dans un système fini comme la planète, les ressources et tout ça. Le développement, la croissance en gros. Le développement, c'est la croissance. Ça n'est pas durable. Donc j'avais proposé qu'on change le nom par épanouissement solidaire. Ce qui, à tous les niveaux, dans tous les continents, correspond à quelque chose qui n'est pas forcément le même vœu. Mais épanouissement solidaire me paraissait mieux. Bon, bref, j'ai démissionné. Mais je reviens à eugénisme. Effectivement, moi, j'emploie le mot depuis très longtemps. J'ai écrit plusieurs bouquins sur l'eugénisme. Et j'ai remarqué que les gens confondent l'eugénisme avec le nazisme. Parce que, bon, l'eugénisme a été inventé dans les années 1880 en Angleterre par Francis Galton, qui est un cousin de Darwin. Et il désigne toutes les interventions que peut avoir la science, l'aide sociale, pour améliorer le sort de l'espèce humaine, donc pour améliorer l'humanité. C'est ça l'eugénisme. Il y a eu des sociétés eugéniques créées à partir de juste avant 1900 qui sont passés à l'action à partir de 1907 aux États-Unis en stérilisant à tour de bras des gens, des femmes surtout, mais des hommes aussi, qui étaient jugés inutiles ou néfastes pour l'humanité. Alors il y avait des sourds, il y avait des aveugles, des malades mentaux, toutes sortes de gens. Il y avait aussi des opposants politiques au passage. On a stérilisé ces gens-là abondamment et on a fait la même chose en Europe, très vite, y compris en France. Mais c'est surtout en Allemagne, en Suède, en Suisse que ça s'est développé. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été stérilisées comme ça. Donc l'eugénisme, c'est ça. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, il y avait aussi un eugénisme médical, le même que chez nous, implanté en Allemagne. Ils ont utilisé les techniques, cette fois, pas pour stériliser, mais pour exterminer. Et les chambres à gaz ont été inventées pour les malades mentaux, par le régime nazi. Donc en 1939, on a mis les malades mentaux dans les chambres à gaz avant d'y mettre les juifs. Et puis, après, vous connaissez l'histoire, les horreurs nazies, si bien que tout ça s'est appelé eugénisme. Le mot, progressivement, a changé complètement et il est devenu imprononçable. Bon, moi, je crois qu'il faut le prononcer, parce que quand je parle d'eugénisme, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure le tri des embryons massivement, c'est un eugénisme exactement comme celui qu'on voulait faire dans les années 1900. Mais on n'avait pas les techniques. Aujourd'hui, on a un outil extraordinaire qui est la fécondation in vitro et le tri des embryons. On sait faire ça. À partir de là, ça change tout. Et on peut pratiquer un eugénisme de masse qui soit accepté par les gens. Ce sera ça la différence avec l'eugénisme qui avait été inventé donc, à la fin du 19e siècle. C'est que ce ne sera pas autoritaire. Il faudra que les gens soient d'accord. Mais les gens seront d'accord, surtout pour ce qui concerne leur progéniture, pour qu'elle soit bien, qu'elle soit pas malade. C'est évident. Autrement dit, ça change rien du tout. Et donc, moi, j'utilise le mot eugénisme justement parce qu'il évoque quelque chose, il évoque la dérive. Pas forcément nazi, il peut y avoir d'autres dérives. Et le comité d'éthique m'a écrit il y a un mois pour me demander de faire partie d'une commission qui va étudier l'usage du mot eugénisme parce qu'il porte à confusion, donc il faudrait peut-être le remplacer par un autre mot. C'est terrible. Donc je leur ai écrit une lettre très méchante qu'on peut trouver sur mon site hein, pour dire pourquoi j'irai pas dans leur commission et que s'ils voulaient pratiquer la nouvelle langue, il y avait déjà plein de synonymes à eugénisme qui existaient, mais que ce qu'il fallait, c'était réfléchir à ce que ça veut dire. Donc ça répond tout à fait à votre préoccupation. Maintenant, le mot eugénisme est dans le collimateur. On voudrait l'enlever parce que bon, c'est gênant. Il y a des gens comme moi qui utilisent ce mot. Et puis, c'est vrai que le public est plus sensible à ce mot-là qu'au mot même sélection humaine ou amélioration humaine.
C'est très intéressant. Enfin, je pense par rapport à tout ce qui intéresse Emmanuel aussi, ce qu'on disait. C'est-à-dire que là, ce que vous nommez, c'est une situation où on décide où d'orienter, de changer un mot, parce qu'on se dit toujours que ça passe, mais comment ça se fait? Comment ce mot-là a changé? C'est venu petit à petit par mitridatisation, c'est fait... Et là, voilà, on vous convoque pour dire, il y a un projet derrière, parce que ça va affecter le réel. Donc on
oui, c'est même, je dirais même, je le dis dans ma lettre au comité d'éthique, qu'il y a eu dans le nucléaire des accidents extraordinaires. Il y a eu dans le nucléaire civil et dans le nucléaire militaire, hein, Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima. Mais il n'empêche que les gens de l'industrie nucléaire, EDF et autres, continuent de parler de l'industrie nucléaire. Donc on peut très bien... c'est pas parce qu'il y a eu des problèmes avec l'utilisation d'une technologie qu'on doit effacer le mot.
Oui, ça fait penser ce que tu dis au livre de Victor Klemperer, que vous connaissez peut-être, sur la langue du nazisme, LTI.
LQR. LQR, non?
Lingua tertia.
Oui, c'est une expression latine et je crois que c'est LQR.
Ah oui?
Mais bon, la mémoire, LQR. Peut-être ça m'échappe.
Ah oui, t'as raison.
Il y a Eric Hazan qui a écrit un livre il y a quelques années en partant de ça, effectivement, pour relever, je ne sais plus quels étaient ces termes, mais ça pouvait être crise, dont on a parlé ici même avec Eric Chauvier du point de vue de l'anthropologie et du langage, à quel point le mot crise est également renversé.
Enfin, LQR, c'est celui d'Eric Hazan, et LTI, c'est celui de Klemperer.
Voilà, du coup, voilà, c'est celui-là qui me revenait.
Voilà. Donc, il étudie justement comment les mots sont transformés de manière volontaire. Ce qui est intéressant.
Aldous Huxley, ouais. Et alors, mais on n'a pas parlé de convention citoyenne. Je viens de regarder l'heure, mes amis. Et ce serait bien d'en parler un peu, puisque, bon, comme on l'a dit, le livre d'Emmanuel, pas tout à fait calqué, mais en écho de votre propre parcours, si l'on va par là, part des OGM, de problématiques biologiques, pour aboutir dans une convention citoyenne. Ce qui est, en quelque sorte, une partie de votre parcours aussi, puisque c'est quelque chose qui vous intéresse en particulier depuis quelques années. Donc je voudrais vous demander tout simplement, déjà à tous les deux, ce que c'est et en quoi c'est important pour vous. À l'échelle du livre et de la recherche poétique, Emmanuel.
Je ne suis pas là. Voilà. Vous corrigerez. Je fais le brouillon et vous ferez le...
Voilà, Emmanuel commence et je pense que Jacques pourra prolonger largement.
Bon, il s'agit de tirer au sort des citoyens. Enfin, moi, je vais plutôt expliquer pourquoi ça m'a intéressée du point de vue de la fiction, en fait. J'étais en train de regarder Borgen. Vous connaissez cette série danoise où une femme devient première ministre et on suit son cheminement de femme politique et avec en même temps parfois en conflit avec sa vie personnelle, etc. Bon, et j'entends votre émission à propos des conférences de citoyens et je me dis, ça serait vraiment chouette de faire un livre où on n'aurait pas une femme qui devient première ministre, mais une petite équipe de gens qui s'occupent de politique et puis on suit aussi leurs problèmes personnels, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait faire dans un roman un tirage au sort de citoyens et voir comment est-ce qu'ils réfléchissent à un problème qu'on leur pose. Donc, le principe, c'est qu'on les tire au sort, on leur pose une question et ensuite, après quelques week-ends de réflexion, selon un protocole assez précis, on leur demande leur réponse à l'unanimité. Enfin, ils doivent se prononcer vraiment d'une seule voix à l'unanimité dans le groupe. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé du point de vue de la fiction, c'est que je trouvais très drôle de tirer au sort des personnages de fiction, en fait. Parce que d'habitude, dans les livres, dans un roman, on a plutôt des gens du même milieu social. Tandis que là, le but, c'est vraiment de prendre des gens qui sont des quidam, qui connaissent pas du tout le sujet et auxquels on va faire réfléchir à ce sujet-là, bien qu'ils n'y connaissent rien, parce que ça les concerne, parce que simplement, ils sont des citoyens du pays. Voilà, donc, c'est ça qui m'a bien plu dans cette idée-là. Et peut-être...
Ces conférences de citoyens telles que vous les avez évoquées, c'est ce qu'a inventé le Parlement danois en 1990. Vous voyez, ça fait longtemps. Parce que les parlementaires danois, peut-être plus modestes que les autres, que les nôtres, se sont dit qu'ils n'étaient pas compétents pour tous les problèmes de technosciences, de technologie. Et donc, il fallait avoir un moyen d'interroger la société. Et ils ont inventé ce système où on tire au sort des gens, on leur donne une formation et ils répondent à la question... Et ensuite, évidemment, c'est les parlementaires qui prennent la décision, mais en prenant en compte l'avis des citoyens. Donc ça, c'est le schéma général sur lequel il y a eu des milliers, je pense, de conférences de citoyens dans le monde. Dans l'association dans laquelle je milite, qui s'appelle Science Citoyenne, créée en 2002, on a essayé d'aller plus loin. Et la procédure étant toujours différente dans ces conférences de citoyens, c'est jamais le même nombre de personnes, ils ne sont pas formés de la même façon, ils sont pas... Bon, on a voulu faire un protocole strict et on a écrit un projet de loi qu'on a rendu public en 2007, ça fait 13 ans. Les parlementaires s'en sont pas emparés, bien sûr. Dans ce projet de loi, on définit ce qu'on a appelé « convention de citoyens » pour faire la différence avec le tout venant des conférences de citoyens qui sont très mal définies. Donc la convention de citoyens, c'est un protocole très strict. Alors là, on a été très étonnés de voir que Macron lançait une convention de citoyens sur le climat. À la fois, ça nous a plu parce qu'on a dit « tiens, il reprend le truc », mais le protocole est toujours très flou. C'est-à-dire que c'est une conférence de citoyens. Bon, il y a plein de critiques à faire. Il y a beaucoup trop de monde, 150. On ne peut pas faire... D'ailleurs, ils ont fait 5 groupes. Il valait mieux faire 5 conventions de citoyens avec 20 personnes. Donc, il n'y a pas eu de formation initiale des citoyens. Ça, c'est une faute terrible. Normalement, il faut une formation initiale. Ils discutent. Ils font venir eux-mêmes des experts... en plus de ceux qu'on leur a proposés. Bon, bref, il y a tout un protocole avec un comité de pilotage très sérieux de façon à donner une formation contradictoire. C'est vraiment le mot-clé. Contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a... ça n'existe pas un expert qui a la vérité sur un problème. Il y a des experts qui ont leur vérité. Mais il faut faire comparaître des experts qui ont des vérités différentes. Donc, à la fois, ils savent de quoi ils parlent, mais ils n'ont pas la même opinion sur le sujet. Et c'est ça... qui permet aux citoyens de comprendre où sont les enjeux et de discuter avec ces experts. Donc tout ça, on l'a mis au point, on l'a écrit noir sur blanc dans le protocole qu'on a écrit pour les conventions de citoyens. Donc voilà.
Ah oui, il y avait autre chose qui m'avait beaucoup plu, parce que donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'humanitude au pouvoir », donc qui décrit ces protocoles et puis qui dit ce qui se passe quand on fait faire ça aux gens. Et vous dites, les gens, donc n'importe qui, la boulangère d'Anières, le technicien des Alpes, même des enfants, parce qu'il faut des gens assez jeunes. Je ne sais pas si vous dites vraiment des enfants.
Non, mais pas des enfants, non.
Des préadolescents. Moi, j'ai mis des préadolescents.
Oui, vous avez mis deux enfants.
Oui, j'ai mis deux enfants.
Non, normalement, il n'y a pas d'enfants.
Dans certaines, selon certains...
Oui, j'ai lu beaucoup de choses. Mais dans le protocole de la Convention de citoyens, il n'y a pas d'enfants.
Moi, j'en ai mis deux, parce que c'est donc c'est leur avenir qui est en jeu. Donc, c'est important qui participent. Et donc, vous dites, ils deviennent comme des saints. Alors là, la sainteté chez tous ces citoyens rassemblés comme ça, tirés au sort, ça m'a beaucoup amusée. Je me suis dit, c'est vraiment incroyable. En fait, l'idée, c'est que les gens, au lieu de se préoccuper de leurs petites affaires privées comme d'habitude, même dans le vote habituel, quand on va voter, on vote en fonction souvent de ses intérêts et pas du bien commun. Là, l'idée, c'est que les gens, tout d'un coup, ne se préoccupent plus que du bien commun et pas du tout de leur point de vue particulier, privé, de leurs factures, de leurs problèmes avec l'URSSAF, etc. Donc ça, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ben voilà, on va prendre des personnages, les tirer au sort, ils vont devenir des espèces de saints laïcs.
Mais c'est une réalité, c'est pas quelque chose que j'ai inventé.
Oui, tout à fait.
Parce que quand j'étais président de la commission du développement durable, on avait organisé la deuxième conférence de citoyens française. La première, c'était en 98 sur les OGM. Et nous, on en a fait une en 2002. Sur quoi ? Sur le changement climatique. Et les résultats sont intéressants d'ailleurs, parce que je pense qu'ils vont reprendre beaucoup de ces idées-là dans la conférence Macron. Là. Et j'ai donc assisté à ce qui se passait là-dedans. Dans cette alchimie qu'il y a de gens qui ne se connaissent pas, qui sont de tous les milieux, mais qui ont accepté de jouer le rôle, parce que s'ils ne veulent pas le jouer, ils ne viennent pas. C'est trop prenant. Donc de consacrer plusieurs week-ends à travailler, tout ça, d'échanger avec d'autres, et finalement d'apprendre et de se rendre compte qu'ils sont intelligents. Ils sont capables de comprendre, sont capables de faire des propositions que même les experts n'avaient pas imaginées. Et j'ai vu ça là-dedans. Et depuis, je me suis intéressé à cette procédure. Et c'est pour ça que ça m'a amené à participer à ce projet de loi dont je vous parlais en 2007 et qu'à Sciences Citoyennes, on défend très fort la procédure de convention de citoyens. Parce qu'il y a une alchimie, c'est ce que vous évoquez, où les gens qui sont, comme tout le monde, à vrai dire assez cons en général, assez beaufs, quand ils sont dans ce milieu-là, ils sont métamorphosés. Et ça vient tout de suite. Tout de suite, ils échangent, ils deviennent intelligents, ils deviennent altruistes. Ils pensent... Dans leur résolution, et ça, j'ai fait une analyse des conférences de citoyens qui ont eu lieu en France, que je critique par ailleurs dans leur procédure, malgré tout, les gens sont comme ça. Et donc, ça produit quelque chose de toujours intelligent. Et on s'aperçoit qu'ils ne vont pas prendre des résolutions qui sont dans leur intérêt propre, mais qui sont des résolutions pour le bien de l'humanité d'aujourd'hui, y compris dans les pays du Sud, et le bien de l'humanité à venir. Il n'y a aucune autre réunion de personnes... Assemblée générale, forum, tout ce que vous voulez, qui vous permet d'arriver à cette alchimie extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai inventé le mot « humanitude », qui n'est pas très beau, je le reconnais, mais c'était pour qualifier à la fois l'éclosion de cette intelligence collective et en même temps de cette volonté généreuse d'altérité qui se développe. C'est en même temps. Et j'ai nommé cet ensemble-là « l'humanitude », qui est sûrement une qualité qu'il y a chez tous les gens, mais qui n'est pas exploité, qui n'apparaît pas normalement. Ce qui est d'ailleurs un crime contre l'humanité, on pourrait dire. Que les gens ne soient pas en situation d'exprimer leur humanitude. Parce que si on pouvait exprimer l'humanitude, le monde serait complètement changé. Bon, je passe un peu là-dessus.
C'est vrai que c'est assez fascinant. En fait, si vous regardez donc, la convention de citoyens qui a lieu en ce moment, donc celle que vous appelez Macron, donc avec tous ses défauts, quand même, donc ils sont beaucoup, ils sont 150, c'est certainement trop pour qu'ils puissent bien travailler, etc. Mais chaque fois que ces gens s'expriment, ça m'arrache presque des larmes, parce que c'est vraiment merveilleux quand même, hein, de voir l'hémicycle rempli, personne n'a quitté, ça fait déjà le cinquième week-end, il y en a 7 en tout, je crois. Et on peut suivre ça sur Internet, ça s'appelle CCC, Convention citoyenne pour le climat. Je vous conseille de regarder quelques-unes des séances, parce que chaque fois que quelqu'un s'exprime, c'est vraiment très, très impressionnant. Et puis aussi de voir enfin un hémicycle rempli de gens métissés, qui tient compte de ce que c'est que la France aujourd'hui, et qui ne ressemble pas du tout à l'hémicycle des députés. Voilà, c'est vraiment... même avec les difficultés parfois de langage, de lecture, enfin de tout, parce que tout, des gens viennent de tout, toutes sortes de milieux différents, il y a toujours ce que vous dites, là, cette sorte d'énergie et d'engagement de tous. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup d'aller voir.
Avant de passer la parole à la salle, comme on est aussi en conclusion de tout un week-end, ce qui est étonnant, c'est que ça, pour moi, ça qui ai posé des questions à plein d'auteurs pendant 3 jours, ça fait écho à 2 auteurs qui m'ont dit peu ou prou dans des contexte différent, pour Arnaud Bertina dans un contexte politique, d'être allé interroger des gens engagés, et pour Olivia Rosenthal dans un contexte de création, elle interview des gens pour la création, ils m'ont dit texto, vraiment, à cette place-là, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont intelligents. Dès qu'on les écoute et dès qu'on parle avec eux en les considérant, ils sont bien plus intelligents, tous et n'importe qui, et à chaque fois, enfin, c'est-à-dire, ils m'ont dit, je n'ai jamais été déçu par qui que ce soit, dès que je lui ai donné la parole assez longtemps. Voilà, donc ça fait écho.
J'avoue qu'en atelier d'écriture, il se passe aussi un peu ce phénomène. Quand on fait des ateliers d'écriture...
Oui, il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour que ça marche bien. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui ne se connaissent pas et qui se découvrent au moment de résoudre un problème. C'est ça, finalement, l'alchimie. Et c'est extraordinaire. Chaque fois, c'est vérifié par tous les sociologues qui travaillent là-dessus. Or, on tait complètement ce côté-là qui est quand même... quelque chose, il y a une ressource humaine. Moi, je crois à l'humanité depuis 2002.
Mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes avant de pouvoir aussi vous adresser aux 2 auteurs en dédicace à côté. Et nous sommes presque à la fin. Peut-être avez-vous une question, une remarque, une adresse, une invective. Madame.
Je voulais juste savoir, vous dites qu'avant ces conventions, il y a une formation... spécifique, quelle est-elle et selon quels critères?
Alors, si vous voulez, justement, c'est fondamental, ça, c'est une très bonne question, je n'ai pas voulu développer, parce qu'il y a un comité de pilotage qui est constitué de gens qui se sont fait connaître, qui se sont exprimés sur le sujet qui va être débattu par les citoyens. Donc, ils ont écrit un article, ils ont créé une association, c'est des industriels qui fabriquent un produit, ils sont investis, ils ont une compétence, et... ce comité de pilotage va comprendre 10 de personnes de ce modèle-là qui rencontreront jamais les citoyens. Leur tâche, c'est d'établir le programme de formation. Ils ne sont pas d'accord entre eux. On les choisit différents, bien sûr. Et on leur demande d'établir ensemble, par consensus, un programme pour les citoyens. Donc, ils s'engueulent, bien sûr. Mais ils finissent par faire un programme en donnant à la fois les thématiques à étudier, le temps consacré à chaque thème, l'orateur, l'expert qui va venir expliquer ça, discuter avec les citoyens, ils se mettent d'accord sur ce programme. Et ensuite, eux, ils sont en arrière. Ils ne vont pas aux citoyens. Donc, puisqu'il n'y a personne, les citoyens devraient... Ce n'est pas la convention Macron, où il y a les médias, il y a tout le monde qui circule. Bon, c'est un forum. Mais une convention de citoyens, c'est un truc où les gens sont anonymes jusqu'à la fin pour ne pas subir d'influence autre que celle qui a été prévue par le comité de pilotage. C'est-à-dire que la formation, elle est étudiée comme ça, pour être plurielle, contradictoire et multidisciplinaire. Donc voilà, pour répondre brièvement à votre question, comment ça fonctionne. Et les citoyens, une fois qu'ils ont eu cette formation, qu'ils ont discuté entre eux, dans le dernier week-end, ils redemandent des experts qu'on ne leur avait pas prévus, mais qui vont leur permettre d'aller plus loin, de répondre à des questions qui, pour le moment, leur paraissent un peu floues. Et ça fonctionne très, très bien. Et puis ensuite, ils rédigent leur avis, tout seul, il n'y a pas un expert qui leur tient la main, c'est eux qui écrivent leur avis. Et ils font une conférence de presse et la convention de citoyens est dissoute. C'est fini. C'est fini et on en créera une autre pour un autre sujet. Mais c'est pas les citoyens, ce n'est pas toujours les mêmes qui reviennent pour discuter de ça. À tel point, dans celle dont je vous parlais sur le climat, il y a des gens qui pleurent à la fin quand ils se séparent. Un peu comme quand on part du Club Med, mais c'est plus fort encore. Et qui pleurent et qui disent « Quand vous ferez une autre conférence de citoyens, s'il vous plaît, je voudrais bien être dans le jury. » Je dis non, un citoyen de conférence, ça ne sert qu'une fois. Ben, il y a assez de gens dans la population.
J'avais lu ça, vous disiez ça quelque part, et donc j'ai utilisé ça comme moteur de fiction, parce que combien de citoyens ont terminé, ont donné leurs résultats, ça se passe au niveau européen, ils vont à la Commission européenne, ils donnent le résultat de leur recherche. Bon, on ne les écoute pas correctement et finalement, ils ne veulent pas se quitter et ils continuent en fait. Ils volent un bus que leur a mis à disposition la commission et ils filent tous ensemble et ils n'arrêtent pas.
Une autre question ?
Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez fini par, quand vous parliez de dessins laïcs, il me semble que votre parole a été coupée. Je n'ai pas très bien entendu si vous vouliez parler de chimère et s'il y avait un lien, disons, avec. Enfin, disons plus.
Moi,
À Emmanuel Pierreur.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ?
Tout à l'heure, quand vous parliez de
saints laïcs, il s'agissait des citoyens.
Oui. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, j'ai beaucoup aimé cette espèce de rôle hybridé par rapport à cet homme-chien qui est la vraie chimère. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir un rôle... est-ce que vous parleriez de chimère dans cette espèce d'hybridation, dans le fait qu'on peut donner un rôle relativement important à un citoyen quidam?
Ah, j'ai pensé à beaucoup de sens de chimère dans le livre, mais pas celui-là. Pour moi, la chimère, c'est de faire tenir des choses ensemble qui ne devraient pas tenir ensemble, en fait. Ah oui, peut-être ça marche aussi pour les citoyens. Parce qu'il y a l'Europe, il est beaucoup question d'Europe, donc il y a tout, la chimère européenne, essayer de faire tenir les pays d'Europe ensemble pour qu'ils fassent un corps, c'est pas évident. Le livre, il est fait aussi de plein de petites choses prises ici et là, donc il y a aussi pour moi l'idée de faire tenir ça ensemble comme un corps organique. Donc ça, c'est ça qui demande du travail. Et en effet, oui, peut-être prendre le groupe de citoyens pour qu'ils deviennent des saints, c'est peut-être aussi une sorte de groupe chimère, ouais. Merci de la suggestion.
Le micro.
Alors, bonsoir. Si je ne me trompe pas, vous avez insinué que expérimenter sur des chimères humaines et faire la sélection d'embryons est en train de mener les autres nations, enfin les nations, vers le mur.
Parlez un peu plus fort parce que on n'entend pas bien d'ici.
Oui.
Plus près du micro.
D'accord, je m'excuse.
S'il vous plaît.
Alors, vous avez dit que expérimenter sur des chimères humaines et faire la sélection d'embryons est en train de mener les sociétés, enfin les nations, vers le mur. Vous pouvez développer un peu plus, s'il vous plaît ?
Pour ce qui est des chimères, c'est quand même toucher complètement à l'intégrité de l'espèce, de fabriquer des individus dont on ne sait pas ce qu'ils seront. Ça évoque un petit peu ce qu'on dit des robots. Vous savez qu'il y a une commission européenne de juridique qui a donné aux robots le statut de personnes numériques. C'est fort, ça. Les robots sont des personnes numériques pour l'Europe. Donc ça veut dire qu'ils auront des droits et peut-être des devoirs. Bon, mais si vous voulez, les chimères, c'est un peu pareil. C'est des créatures qui n'ont jamais existé, dont on ne sait pas ce qu'elles seront, et qui sont quand même au détriment de ce qu'est l'espèce humaine. Si c'est composé, si c'est fait entre une vache et un mouton, ça ne touche pas l'espèce humaine. Ça pose quand même des problèmes. Mais si c'est l'humain mélangé avec un animal, c'est grave. Alors, à tel point que les députés, quand ils ont étudié le truc et qu'ils ont dit qu'on pouvait créer des chimères, mais ça ne peut pas être un embryon humain qui reçoit des cellules animales, ça doit être un embryon animal qui reçoit des cellules humaines. Bon. Et que la quantité doit être telle, la proportion, qu'on n'arrive pas quand même à un animal trop humanisé. Les sénateurs qui sont passés derrière, ils ont été beaucoup plus francs du collier. Ils ont dit qu'il ne fallait pas dépasser 50% de cellules humaines dans l'animal. C'est exactement la chimère classique, hein. C'est moitié-moitié. Donc, c'est ça qu'il y a dans le projet de loi, 50% de cellules animales dans l'humain. De cellules humaines dans l'animal, ce qui revient au même, puisque c'est moitié-moitié. Alors, pour le moment, il est dit qu'on ne peut pas transplanter ces chimères, qui d'ailleurs n'existent pas, puisque c'est le projet d'en fabriquer. Mais il est bien dit, la convention d'Oviedo nous interdit de transplanter, de donner naissance à ces chimères. Mais il y a déjà le comité d'éthique de l'INSERM, qui est le fer de lance de toute la révolution éthique. C'est le comité d'éthique de la recherche médicale, c'est diabolique. Ils ont déjà dit, mais pourquoi pas, ce serait intéressant pour la recherche de faire se développer ces chimères. Alors, pour le moment, elles peuvent se développer chez l'animal un certain temps, mais pas jusqu'à la naissance. Le comité d'éthique de l'INSERM demande qu'on puisse aussi développer des chimères dans l'espèce humaine en transplantant chez des femmes des chimères homme-animal. Mais c'est où on va ? Donc, voilà. Si je reviens au tri des embryons, qui pour moi... est beaucoup plus grave, parce que je pense que les chimères, ça restera quelque chose de relativement anecdotique. C'est comme la PMA pour toutes. Mais le tri de l'humanité dans l'œuf, ça correspond à ce que veulent tous les gens. Tout le monde veut un enfant en bonne santé. et éventuellement, on en parlera peut-être un peu plus tard, les Chinois travaillent là-dessus, d'identifier des gènes liés au psychisme et à l'intelligence, donc d'avoir des enfants de meilleure qualité intellectuelle. C'est quelque chose qui est étudié actuellement par les généticiens. Donc, si on arrive à fabriquer ça, c'est vraiment de l'eugénisme, mais c'est pas seulement une question de principe de refuser ça. Ça veut dire que toutes les personnes aujourd'hui handicapées seront beaucoup plus mises à l'index qu'aujourd'hui, puisqu'on aurait pu éviter qu'elles apparaissent. Quand dans une société qui aura ces techniques-là, on ne supportera pas le moindre déviant. Et si on ne supporte pas du déviant, c'est qu'on fabrique que de la norme. C'est dramatique. Alors c'est dramatique, je vais un peu vite d'un point de vue philosophique, psychologique, mais c'est dramatique d'un point de vue biologique. Parce que si vous fabriquez une espèce humaine formatée en fonction de critères complètement subjectifs aujourd'hui, qui sont les critères de la qualité humaine, bon, vous allez faire des individus qui n'auront pas la diversité dans l'espèce pour résister à de nouvelles affections. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, vont nous arriver des maladies. Ce n'est pas le cas du coronavirus, apparemment. Ce n'est pas lié au réchauffement. Mais vous voyez la panique que ça sème, déjà, ce truc-là, qui n'est jamais qu'une grippe. Quand on aura des bactéries ou des virus qui auront muté, qui seront vraiment très dangereux, qui seront mortels à tous les coups, qui s'étaleront dans la population, il est possible qu'on n'ait pas dans notre génome ce qu'il y a eu de tout temps, c'est-à-dire des individus qui résistent. Il y a 30% des gens qui ont résisté à la peste au Moyen-Âge à cause de leur génome, parce qu'ils avaient des gènes de résistance. Si on élimine tous les gènes qui servent à rien, apparemment, mais comment on peut dire que ça sert à rien alors qu'on ne connaît pas l'ennemi futur ? Donc voilà, je réponds à votre question un peu vite, mais c'est une folie totale, le tri de l'humanité, d'un point de vue humaniste et d'un point de vue biologique de la survie.
Merci, il est l'heure. Il est l'heure. Merci à tous les deux. Et puis vous allez signer à côté, donc vous pouvez continuer, poser encore des questions en les rencontrant directement.
Merci.
C'était passionnant. Merci à tous les deux et vraiment merci de vous être prêtés à l'échange et de vous être incarnés depuis cette fiction. Merci Jacques Testard, merci Emmanuel et bonne fin puisqu'on a fini. Bonne soirée.